Monsieur le Président, dans le mot nouveau contrat social, il y a contrat, donc engagement. Alors, engagement vis-à-vis de qui?
Nous avons repris, et nous tâchons de la moderniser, de l'adapter aux problèmes de l'heure, au monde actuel, la célèbre formule de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le thème essentiel de toute société démocratique. C'est une société consensuelle, où chacun accepte de vivre en société, de se plier à certaines contraintes pour en retirer divers avantages. Donc c'est l'inverse de tout régime de dictature ou d'autocratie, d'écrasement de la personnalité. Le contrat, c'est le consentement. C'est la dignité de l'homme, c'est l'égalité.
Quelles sont les ambitions du nouveau contrat social?
L'ambition du nouveau contrat social a été justement de prendre en considération les phénomènes du monde nouveau. Le plus frappant est celui de l'expansion économique, et d'en tirer des conséquences qui nous permettent d'échapper à l'ancien dilemme du libéralisme ou du socialisme. C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs, dans les débuts, le socialisme des acquis, ou réduit aux acquis. Pour parler d'une façon plus concrète, dans une société stagnante, il y a des riches et des pauvres, des gens qui ont des grands revenus, d'autres des tout petits, d'autres qui sont dans la misère. On ne peut améliorer la situation des moins avantagés qu'en prenant dans l'assiette ou dans le portefeuille des autres, et cela ne va pas sans cri. Au contraire, dans une société expansionniste, où le revenu national augmente de 3, 4, 5, 6, 8 par an, vous pouvez refaire des adaptations d'après le supplément du revenu. C'est d'ailleurs une application de cette idée qui a été réalisée dans le SMIC, le salaire minimum de croissance, et d'autres peuvent encore être déduits. D'une façon plus générale, c'est une méthode d'approche des problèmes actuels qui cherche à utiliser les moyens de l'économie libérale pour atteindre les fins du socialisme. Les fins sociales que se donne le socialisme.
Vous regroupez une majorité d'idées et vous proposez également des solutions.
Oui, nous allons proposer une série de solutions, c'est ce que nous appellerons des thèses. Il y en a 7 d'ailleurs et nous les mettrons par écrit. Plusieurs feront l'objet de propositions de loi, de textes de loi dont un est déjà déposé.
En avril 1975, à Poitiers, c'était le droit au travail qui s'était dégagé comme thème essentiel des travaux du 5e colloque. Alors, que sera-t-il en 1976 ici à Épernay?
C'est toujours une de nos finalités, elle est très importante. Il faut que nous ayons le courage de la mettre en avant, car le problème de l'emploi est essentiel. Nous ne pourrons pas refuser à des jeunes la possibilité d'entrer dans la vie, les obliger d'être des chômeurs avant d'avoir travaillé, ce n'est pas possible. Comme cela ne peut pas se faire en un jour, c'est un de nos thèmes et nous avons proposé un certain nombre de solutions qui font l'objet du rapport présenté par mon collègue M. Partra, député de la Loire. Notamment, je tente moi-même une expérience régionale en Franche-Comté qui pourrait être généralisée par un fonds régional de l'emploi. La région prend en charge elle-même un certain nombre de jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi ailleurs. Elle leur assure la formation, l'expérience, l'éveil de leur vocation. Elle leur donne un premier emploi, elle leur garantit.
Le nouveau contrat social d'Edgar Faure trouve-t-il des points communs avec la société libérale avancée de Valéry Giscard d'Estaing?
Je crois qu'il n'y a alors absolument aucun point de discordance. Naturellement, chacun de nous insiste peut-être sur des points qui lui sont particuliers. D'ailleurs, le livre de M. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un programme, il ne se présente pas comme tel. C'est une description générale d'une situation et la définition des problèmes qu'elle pose. C'est exactement ce qu'on appelle une problématique. Et dans cette problématique, c'est à nous qu'il appartient, au Parlement, au gouvernement, de tracer des lignes de solutions concrètes.
Mes deux dernières questions seront plus personnelles, Monsieur le Président. Vous avez un palmarès politique tout à fait prestigieux. Alors, faut-il cultiver le génie de la conciliation pour réussir comme vous avez réussi en politique?
La conciliation est souvent une très bonne chose. Je m'efforce d'être conciliant, je m'efforce de synthétiser. Mais vous vous tromperiez si vous pensiez que ma carrière politique n'a été qu'une expérience de conciliation. Faut-il vous rappeler que je suis le seul sous la 4e République, et l'un des présidents sous les deux Républiques qui ont prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce n'était pas un acte de conciliation.
Edgar Faure, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous écrivez toujours des romans policiers?
Non, je n'ai pas écrit de roman policier depuis longtemps. Ce n'est pas que j'y sois opposé, mais les circonstances ne s'y sont pas prêtées, parce que j'ai beaucoup de travail, et d'autre part, j'écris beaucoup aussi. Mais j'écris beaucoup de discours, j'écris beaucoup d'articles, et j'écris même des livres. J'aime mieux, en ce moment, écrire des livres historiques plutôt que des romans policiers. J'avais écrit un roman policier pendant la guerre, j'avais du temps ou des loisirs pendant l'occupation, puis ensuite, le soir à Alger, quand j'avais un peu de temps, mais je n'avais pas de documentation. Ici, à Paris, où je peux le faire, je préfère étudier des problèmes historiques. C'est à la fois pour moi un repos et aussi peut-être un recyclage. Et vous allez voir paraître, d'ailleurs, sous ma signature, dans quelques mois, un ouvrage, je dois dire, assez important sur un sujet qui est évidemment économique et technique, mais également très vivant au point de vue historique, qui est le système de l'As, le système de l'eau, la première grande inflation de l'histoire au temps de la Régence.
Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Merci, Monsieur le Président.
Je le souhaite.